Célestin Oufoué qui vient nous prêcher la parole de Dieu.
Bonjour. C'est la grâce, c'est une opportunité que Dieu nous donne ce matin de nous retrouver dans sa maison. Parce qu'on ne sait pas quand vient le jour et puis on ne sait pas quels sont les moments. Mais quand tu nous donnes l'occasion d'être dans sa présence, saisissons ces occasions-là. Et puis lorsqu'on a un pas à faire vers lui, faisons le pas vers lui. Donc que le Seigneur nous bénisse et puis je vais prier pour la parole maintenant. Père éternel, Dieu, je venis vers toi et puis me remettre entre tes mains, Seigneur. Père, comme l'avions dit tantôt, ta parole est vraie, elle est la vérité. Et nous voulons te prier afin que dans ta grâce, Seigneur, tu permettes ce matin qu'elle soit dite avec hardiesse et autorité. Seigneur, parle, car nous avons besoin de toi, de t'entendre, Seigneur. Non seulement parle, mais donne-nous la force aussi d'être transformés, Seigneur. Père, nous soupirons après toi comme une biche soupire après des courants d'eau. Viens nous assister ce matin. Je vais me remettre entre tes mains, Seigneur, afin que je sois un canal que tu veux utiliser comme tu veux, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Père, que tout raisonnement qui est tenu captif, Seigneur, ce matin puisse être libéré. Et parle-nous dans ta grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, la prédication de la parole de Dieu se trouve dans le livre de Luc. Depuis un certain temps, donc nous faisons une étude continue dans le livre de Luc. Donc ce matin, nous sommes au chapitre 12 du livre. Et le titre du message ce matin est intitulé « Soyons vigilants ». Soyons vigilants. Donc Luc 12 du verset 35 au verset 59. Luc 12, du verset 35 au verset 59. Mais pour situer le texte avant que nous puissions faire une lecture, nous avions vu dans les études précédentes que le Seigneur, après avoir attiré l'attention de ses disciples et de son auditoire sur l'attitude hypocrite des pharisiens, va leur donner aussi diverses instructions afin qu'ils puissent avoir toujours les regards tournés vers lui. Ainsi, au chapitre 12, nous avions vu avec le pasteur Ronald que nous devions vivre sans crainte dans ce monde, car Dieu prenait soin de nous et que son esprit nous instruisait. Donc l'esprit du Seigneur nous instruisait, ce qui faisait en sorte que nous devons vivre sans crainte dans ce monde. Nous avions vu dimanche dernier aussi avec le frère Jonathan que notre vie de tous les jours peut être rempli d'inquiétudes. C'est-à-dire, si on veut trouver des sujets d'inquiétude dans notre vie de tous les jours, on va en trouver en masse. Et l'inquiétude était normale. Mais face à l'inquiétude, nous avions un recours. Dieu, et que sur lui, l'on peut s'appuyer. Aussi, notre attention a été aussi tirée sur le fait que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. En d'autres termes, si nos trésors sont tournés vers des choses qui n'honorent pas Dieu, notre cœur va se retrouver aussi vers des choses qui n'honorent pas Dieu. Donc si le matériel, la richesse, les plaisirs de ce monde sont à nos yeux plus importants, c'est là aussi que notre cœur sera. Nous avions donc été exhortés à faire de Dieu notre trésor. Et pour cela, il était important de chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, dans la portion de texte que ce matin nous allons voir, le Seigneur, par divers paraboles, va nous exhorter. Donc, au travers de l'exhortation qu'il a portée à ses disciples, à la foule et aux apôtres, donc va nous exhorter à être vigilants dans l'attente de son retour. Donc, pourquoi devons-nous être vigilants? Pourquoi est-ce nécessaire pour nous d'être vigilants? Et puis, quand est-ce qu'il nous faut être vigilants? Notre texte, donc, c'est Luc 12, versets 35 à 59. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième heure, heureux ses serviteurs s'il les trouve vaillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu peu de coups. On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés contre 3. Seront divisés 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt, la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il sera chaud, il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Amen. Donc, c'est ce passage que nous allons regarder. Nous allons le regarder sous 3 angles. Et la première partie que nous allons voir, ce sera Jésus qui attire l'attention des disciples, des apôtres et de la foule sur le retour du maître au travers des paraboles. La deuxième sera Jésus qui reconnaît effectivement qu'il est un objet de division. Et lorsqu'on regarde de façon pratique et type, un objet de division même dans les familles. Et troisièmement, Jésus qui interpelle donc la foule à savoir discerner la volonté de Dieu. Lorsque nous regardons notre passage dans la première partie du verset 35, le verset 35 nous dit « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées ». Dans d'autres versions, il est dit « Restez en tenue de travail et que vos lampes soient allumées. » Donc ici, sous une forme imagée, Jésus s'adresse à la foule, il s'adresse aux disciples, il s'adresse donc aux apôtres. Donc il leur dit d'avoir les reins sains et d'avoir leurs lampes allumées. Donc l'inconnu dans cette démarche que Jésus est en train de donner, dans la première parabole ici, c'est que Jésus demande aux personnes d'avoir de la ceinture, d'avoir la lampe, parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que le maître va revenir. Et la ceinture, normalement, quand on va la porter, a pour objectif de faire en sorte que les tenues qu'on porte puissent tenir. C'est-à-dire qu'on soit libre de nos mouvements, qu'on puisse facilement vaquer à nos occupations. Et la lampe, quand on va la prendre aussi, c'est pour nous permettre d'être éclairés, d'éviter des pièges. Si c'est dans la noirceur, mieux voir et mieux marcher. Donc ici au verset 35, il dit « Que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera. » Donc ici, lorsqu'on regarde cette première parabole, donc le maître part pour des noces. Et lorsqu'il part pour des noces, il laisse des serviteurs. Mais on ne sait pas quand est-ce que le maître arrive. On ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour. Mais ce qu'on sait, c'est que le maître revient. Mais dans quelles conditions le maître trouvera ses serviteurs? Il y a deux attitudes. La première attitude, le maître trouvera ses serviteurs vacants à leurs occupations, s'attendant qu'il arrive, et lorsqu'il arrive, ils ouvriront la porte afin qu'il rentre. Première attitude. Deuxième attitude, les serviteurs peuvent vaquer à d'autres occupations autres que ce qu'ils avaient à faire. Ils peuvent négliger même l'attente du maître. Ils peuvent ne même pas accueillir le maître. Mais ici, Jésus, en faisant sa comparaison, il donne déjà une directive. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir, dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Donc, dans les deux attitudes qui sont décrites au niveau des serviteurs, il y aura des conséquences aussi par rapport aux actes que les serviteurs auraient posés. Donc, pour ceux qui auront suivi les consignes du maître, pour ceux qui se seraient saints avec leur lampe, attendant l'arrivée du maître afin de lui ouvrir, on nous dit qu'ils seront heureux. Ils seront heureux pourquoi? Parce qu'on ne sait pas l'heure. Le maître viendra certainement tard. Ici, on nous parle de la deuxième heure ou à la troisième heure. On situe la deuxième heure de 21h à minuit. Et la troisième heure, donc de minuit à 3h du matin. On ne sait pas à quelle heure viendra donc le maître. Est-ce qu'il vient à 3h du matin? S'il vient à 3h du matin, il faut que les serviteurs soient veillants, lampe allumée, l'attendant, ouvrant la porte afin qu'il rentre. S'il vient à 21h, tant mieux, ils auront un peu de sommeil. Donc, ils vont ouvrir quand même, il va rentrer. Mais on ne sait pas l'heure. Donc, il dit, soyez semblables. Soyez semblables à ces serviteurs-là, qui malgré le fait qu'ils ne connaissent pas l'heure, malgré le fait qu'ils ne connaissent pas le moment indiqué auquel reviendra le maître des noces, sont attentifs et puis s'apprêtent pour l'accueillir. Donc, c'est ce qu'il donne comme directive. Et comme conséquence pour ces personnes, il dit, vous serez heureux. Pourquoi vous serez heureux? Parce que le maître sera content de votre service, lui-même va se ceindre. C'est-à-dire, à votre place, il va même mettre sa ceinture et puis va commencer par vous servir. Et c'est la démarche que Jésus est en train de donner donc à son auditoire. Au verset 38, il dit qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa porte. Donc, en plus de la démarche qu'il donne au niveau des serviteurs, des deux types de serviteurs, il donne un autre exemple. Il dit, mais le voleur, quand il vient, le propriétaire de la maison ne sait pas. Parce que si le propriétaire de la maison savait à quelle heure viendrait le voleur, il serait en train de veiller pour l'attendre, pour l'accueillir aussi chaleureusement, certainement. Mais il ne sait pas à quelle heure le voleur vient. La preuve en est que chez nous, à la maison, chacun, quand à une certaine heure, toutes les portes sont barrées. On veut être en sécurité parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas si un intrus peut venir mais on veut être en sécurité. Donc, on prend nos dispositions. Donc, c'est parce qu'on ne sait pas à quelle heure le voleur peut venir. Donc, il dit, mais si le maître savait à quelle heure viendrait le voleur en ce moment-là, il allait aussi veiller pour l'attendre. Mais c'est parce qu'il ne sait pas. Donc, puisqu'il ne sait pas, il prend ses dispositions pour pouvoir accueillir le voleur, pour pouvoir être prêt, pour ne même pas que le voleur arrive. C'est-à-dire quand le voleur arrive, qu'il ne puisse pas entrer. Donc, autant on ne sait pas l'heure à laquelle un voleur peut passer chez nous, autant aussi on ne sait pas quand est-ce que le maître va revenir. Alors, vu qu'on ne sait pas quand est-ce que le maître vient, il est important qu'on puisse être vigilant. Il est important qu'on puisse être prêt. Il est important qu'on puisse marcher selon les directives du maître, afin que quand le maître arrive, il nous trouve en bonne posture. Il nous trouve à notre poste. Quand le maître arrive, il nous trouve en train de servir. Le verset 35, dans d'autres versions, comme je disais, il dit « Restez en tenue de travail et que vos lampes soient allumées. » Cela m'a donné un peu, ça m'a fait repartir un peu dans le livre de Néhémie. Lorsqu'ils étaient en train de construire la muraille de Jérusalem, on nous dit qu'il y avait des assaillants qui venaient. Arrivé un moment, on dit pendant qu'ils travaillaient, ils avaient une arme aussi pendant qu'ils travaillaient. Donc, ils étaient vigilants, attendant que l'assaillant vienne pour se défendre. Donc, ils étaient prêts. Et ce matin, le Seigneur nous exhorte aussi à cela, à cette vigilance-là. Le voleur n'avertit pas quand il doit passer dépouiller une maison. C'est pour cela que chacun prend les mesures de précaution pour veiller sur sa maison ou sur ses biens. Donc, nous aussi, ne savons pas le retour de notre Seigneur. On a entendu dire certainement qu'il reviendrait en 2012. Chaque année, on fixe des années, des sectes pernicieuses fixent des heures, des jours pour dire que le Seigneur vient. Mais il dit, seul le Père sait quand il revient. Donc, déjà, ça, c'est lorsqu'on fréquente une communauté, lorsqu'on fréquente un groupe, je dirais, chrétien en griffe, déjà qui commence par dire à telle date le Seigneur revient, on doit commencer à se retirer. Parce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit qu'on ne sait pas quand le maître vient. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que le maître va revenir. Soyons vigilants et prêts à l'accueillir quand il va revenir. Amen. Et donc, Jésus donne ces directives-là à la foule, aux disciples et aux apôtres. Et il dit au verset 40, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Certainement, on sera en train de faire autre chose. Certainement, on sera en train de vaquer à nos occupations, et puis le Fils de l'homme viendra. Mais quand le Fils de l'homme viendra, il faut que nos cœurs soient attachés à lui. Amen. Alors, quand Jésus finit de décrire un peu cette parabole, arrivé un moment, Pierre dit, « Seigneur, il faut clarifier les choses. » Et puis ça, c'était important pour lui. Il fallait que le Seigneur clarifie, sinon il ne peut pas avancer. Il lui dit au verset 41, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole-là? Est-ce que cette parabole-là s'adresse à nous en tant qu'apôtres? Ou bien tu es en train de parler aux suiveurs, c'est-à-dire aux hommes qui viennent voir que tu accomplisses des miracles, ou bien tu es en train de parler à tous ceux qui t'ont accepté. » Et généralement, on dit les Ivoiriens répondent aux questions par une question. Mais là, Jésus s'est comporté comme un bon Ivoirien. Donc, au lieu de répondre aisément à la question de Pierre, mais il va aller encore par une autre question et donner une autre parabole. Il dit, et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Donc le Seigneur essaie de recentrer un peu la discussion. Il dit, « Belle question, Pierre, mais quel est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses biens. » Donc, le Seigneur ne répond pas directement ici à Pierre. Mais il questionne encore. Il pose une autre question à laquelle il répond en donnant une autre parabole. Donc, il donne un enseignement imagé pour que les gens comprennent, pour illustrer son propos. Et il va faire la comparaison de deux économes, donc deux intendants, deux personnes pour lesquelles doivent administrer ses biens, des biens ou gérer des hommes. Il dit à l'un, je confie des hommes, il en prend soin. Il suit les directives qui sont données. À un autre, il va agir comme il veut. Il va même les battre, il va les dépouiller, il va les maltraiter. Mais des deux, lequel aurait fait la volonté du Père? Lequel aurait agi comme le Maître l'aurait souhaité? Et le serviteur fidèle va suivre les consignes du Maître. Et celui qui va suivre les consignes du Maître, ce serait le croyant. C'est celui qui aurait accepté le Maître, qui aurait accepté Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Celui qui serait soucié de marcher selon les directives, selon les consignes que le Maître aurait données. Donc, celui qui fait confiance à Dieu et qui est soucieux de mieux administrer tous les biens que Dieu lui a confiés, il aura la reconnaissance aussi de son Dieu. Le verset 44 nous dit « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. » Donc, l'économe fidèle, l'économe prudent, qui suit les consignes du maître, quand le maître vient, le maître l'établit sur tous ses biens. Donc, le maître l'honore, le maître est reconnaissant à cette personne-là. Tandis que l'économe infidèle, l'économe qui n'agit pas selon les consignes du maître, mais qui agit selon son propre cœur, selon sa propre volonté, sans tenir compte des directives que le maître lui aurait données, aura aussi une conséquence. Au verset 47, on nous dit « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. » Donc, tandis que l'autre sera battu d'un grand nombre de coups, l'autre sera félicité. Tandis que l'autre sera battu d'un grand nombre de coups, l'autre sera honoré. On l'établira sur tous les biens. Le maître l'établira sur tous les biens. La Bible nous enseigne que nous devons être fidèles dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses peut l'être aussi dans les grandes choses. Ben ici, l'économe infidèle, ben, il représente en réalité celui qui n'a pas accepté le Seigneur. Parce qu'il est ni loi, il est sans foi. Il représente celui qui va agir selon sa propre volonté sans tenir compte des consignes que le maître aurait laissées. Son agissement et son attitude montrent que son cœur n'est pas régénéré. Montre que son cœur n'est pas renouvelé, montre qu'il n'a pas accepté les consignes du Maître. Et ce matin, le Seigneur donne cette image-là pour que nous puissions, nous aussi, être des économes fidèles. Je dirais, nous avons un pas de plus. Nous avons une marche de plus. C'est que Dieu nous fait grâce de l'avoir connu, de l'avoir rencontré. Et ce qu'il voudrait, c'est que nous puissions marcher selon ses consignes. Que nous ne puissions pas nous comporter comme cet économe qui, bien que connaissant la volonté de Dieu, va agir comme il veut. Et donc, c'est l'image que le Seigneur utilise pour répondre à la question de Pierre. Donc, le verset 48 nous dit, « Mais celui qui ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc, ce verset nous montre qu'il y a un principe. Et le principe, c'est que quand tu reçois beaucoup, on te demande beaucoup. À celui qui en a, on donne. Mais à celui qui n'en a pas, des fois, on retire parce que le peu qu'il a, il ne le fait pas fructifier. Et nous sommes encouragés donc à marcher selon les consignes que le Seigneur nous donne. Et ce principe s'applique aussi à nous. Certainement qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne sera pas convoqué pour recevoir des coups, pour recevoir une punition quelconque. Mais Dieu veut que nous puissions mettre à profit chaque talent, chaque don qu'il nous accorde, qu'on puisse l'exercer comme il se doit pour l'avancement de son œuvre. Et soyons des économes fidèles, des économes prudents. Et c'est cet enseignement qu'il donne. On pourrait l'étendre, l'économe imprudent, on pourrait l'étendre, je dirais, aux gestionnaires de ce monde. Mais malheureusement, qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, une façon pour nous de comprendre qu'il y a un jugement. Une façon pour nous de comprendre, en effet, que l'économe infidèle, il y aura une conséquence pour ses actes, et l'économe fidèle aussi, il y aura une conséquence pour ses actes. Au verset 49, Jésus dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ? Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Jésus ici en le disant, c'était un peu choquant de savoir qu'il annonce qu'il est un objet de division. Un objet de division dans les familles, dans les amitiés. Il annonce qu'il est un objet de division. Et de prime abord, lorsqu'on le lit, on est frappé par cette affirmation. Parce que de façon générale, lorsque nous on va annoncer l'Évangile, Jésus donne la paix, Jésus réconcilie et tout cela, mais il dit non. Moi, je suis là pour apporter la division. C'est ça. Et puis, la division est en marche. Mais il était en train de faire une interpellation. Il était en train, non seulement d'avouer que son message est un message, et en effet, qui va apporter la division, parce que les gens ne comprennent pas. Parce que les gens ont le cœur endurci. Donc, le feu dont il parle indique en effet un jugement. Oui, il fait allusion aussi, quand il parle de baptême, à sa mort, lorsqu'il dit qu'il y a un baptême par lequel il doit passer. Certainement que des familles, le fait que des personnes ont accepté le Seigneur ont été rejetées par leur famille. Des amitiés ont été brisées parce que des personnes ont accepté le Seigneur. Oui, c'est de cela que le Seigneur parle. Oui, il dit, la bonne nouvelle, quand vous allez l'annoncer, certainement que vous serez rejetés. La bonne nouvelle, quand elle va être dite, certainement que vos meilleurs amis vont vous prendre pour des fous. Et certainement qu'ils vont vous dire, mais en plein 21e siècle, on ne croit pas que ce message est encore vrai. Oui, des familles ont été divisées. Oui, des amitiés ont été brisées. Parce que lorsqu'on accepte le Seigneur, on a une nouvelle ligne de conduite. Alors quand notre ligne de conduite change, cela par moments va choquer. Cela choque. Cela choque pas parce que le message qu'on a, il est choquant, mais cela choque parce que lorsque les gens connaissent la vérité, se sentent jugés. Et ces personnes vont se retirer d'elles-mêmes. Sinon, en réalité, le message de la bonne nouvelle est un message d'amour. Le message de la bonne nouvelle est un message de restauration. Le message de la bonne nouvelle est un message de transformation et je dirais de bénédiction. Mais lorsque ce message-là vient être confronté à un mode de pensée qui est contraire à la parole de Dieu, le chrétien commence par être persécuté. Lorsque ce message de bonne nouvelle vient être confronté à un mode de conduite contraire à la volonté de Dieu, le chrétien commence par être persécuté. Oui, persécuté. Et l'exemple que le Seigneur donne de division ici, lorsqu'on regarde, il s'agit de personnes assez proches, de pères, de mères, de belles-mères et tout ça. Donc, le Seigneur est en train de montrer que même des amitiés intimes et fortes peuvent être perturbées, peuvent être brisées à cause de la bonne nouvelle. Je me souviens d'un témoignage qu'une sœur nous rendait une fois. Et puis, elle dit, « Ah, mais quand j'avais pas accepté le Seigneur, tous les samedis, nous avions un programme de sortie. On allait régulièrement en boîte de nuit avec ma cousine. Donc, nous allons. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, elle a dit, nous menons une vie pas possible, en tout cas, qui était contraire à la volonté de Dieu. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai compris que la vie que je menais n'était pas ce que recommandait la Bible et j'ai changé. Depuis ce jour, ma cousine me boude, elle ne me parle pas. » Oui, elle dit, c'est ma propre cousine. Et depuis ce jour, elle ne me parle pas. Parce que quand elle me demande de sortir, je dis non, mon modèle, c'est Jésus, je ne peux plus faire ce que nous avions l'habitude de faire. Alors des amitiés, des relations se brisent. On sera surpris d'entendre au travail, « Oh, mais lui-là-même, il se prend pour Dieu, ou mais celle-là-même, elle se prend pour le Saint-Esprit. » Parce que nous refusons, des fois, d'entrer dans la corruption. Des fois, à telle enseigne que les gens ne veulent même pas te saluer parce que tu deviens dérangeant pour leur conduite. Oui, au niveau des familles, cela arrive. Lorsque par moment on nous sollicitera pour poser certaines actions et qu'on va juger que c'est pas des actions conformes à la parole de Dieu, on commence par te bouder. Et on commence même par dire, « Ah, mais il n'est même pas prêt à aider la famille ou à faire ça. » Tu dis, « Non, je veux aider. » Mais si l'aide qu'on doit apporter est conforme à la volonté de Dieu, répond aux critères de la volonté de Dieu, nous sommes prêts à le faire. Mais si l'aide que j'apporte me condamne et doit vous condamner, ça ne vaut pas la peine. C'est que on n'est pas en train de nous aider, mais on est en train de se détruire. Donc la parole de Dieu par moment va être choquante. Versets 52 à 53. Il déclare désormais, donc j'en ai parlé, c'était les relations qui vont être perturbées. Dans la troisième partie, à partir du verset 54, Jésus va interpeller la foule à savoir discerner la volonté de Dieu. Il leur dit, mais vous avez les capacités. C'est-à-dire, lorsque vous regardez le ciel, vous êtes capable de donner, je dirais, toute la météo d'une journée. Et vous êtes capable de nous dire, il pleut ou il ne pleut pas. Quand vous regardez le vent souffler, tout ça là, vous êtes capable de dire ça, mais il y a une chose pour laquelle vous n'êtes pas capable. Ou du moins, vous êtes hypocrite. Vous n'êtes pas capable. Ou du moins, vous feignez de ne pas être capable de discerner ce qui est juste. Lorsqu'on regarde tout autour de nous, Dieu nous parle. Par la création, Dieu nous parle. quand on regarde au fond de notre cœur, notre conscience même, on sait que Dieu nous parle. Parce que dans le cœur de chacun, il a mis la pensée de l'éternité. On n'a même pas besoin de dire à quelqu'un qui n'a jamais entendu l'évangile qu'il ne faut pas tuer ton frère. Parce que déjà, au fond de lui, il sait que c'est une mauvaise chose. Donc déjà, simplement par ces bases-là, Dieu nous parle. Mais vous n'êtes pas capable de discerner ce qui est juste parce que vous ne voyez même pas le Messie qui est au milieu de vous. Oui, ils attendaient pourtant le Messie. Ils attendaient un sauveur. Mais le sauveur était avec eux. Quand bien même que le sauveur était avec eux, les cœurs étaient endurcis. Quand bien même que le sauveur était avec eux, personne ne s'engageait. L'hypocrisie est encore dénoncée. Au verset 57, il dit « Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ?» Lorsque tu vas avec ton frère, ok. Donc au verset 57, il dénonce encore l'hypocrisie qui avait été déjà dénoncée avec les pharisiens. Comment peuvent-ils ignorer la présence du Seigneur et son message qui leur est si facilement accessible? Ils ne reconnaissaient pas leur sauveur, celui qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils n'ont pas de discernement pour ce qui est juste, pour ce qui concerne la volonté de Dieu, pour ce qui paraissait évident à leurs yeux. Ils n'avaient pas le discernement pour se tourner vers Dieu, pour se repentir, pour se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Même les appels de Jean-Baptiste sont tombés à l'eau. Parce qu'avant Jésus, Jean-Baptiste criait dans le désert, « Repentez-vous. » Donc, du 58 au 59, le Seigneur utilise encore l'image du tribunal ici. Et il dit, « Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traite devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. » Dans certaines versions, on dira jusqu'à la dernière centime. Donc, le Seigneur utilise ici l'image du tribunal pour montrer l'urgence de la réconciliation avec Dieu. S'il est important de trouver un arrangement entre nous humains, entre adversaires humains, adversaires terrestres, afin d'éviter la prison, à plus forte raison, ne serait-il pas important de se réconcilier avec Dieu? Donc le Seigneur interpelle encore ici pour dire, si tu as un problème avec ton adversaire, tâche-toi d'arranger cela avant que la situation ne dégénère en ta défaveur. À plus forte raison, lui qui est Dieu. Et aujourd'hui encore, on a la possibilité de nous réconcilier avec lui par Jésus-Christ. En toute occasion, il dit, soyons prêts car nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur revient. Mais ce qu'on sait, c'est que le Seigneur revient. Mais nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas le jour. Alors l'attitude à adopter, c'est d'être prêt. Comme les serviteurs vigilants, soyons vigilants et gardons nos lampes allumées, parce que le Seigneur revient. Comme des économes fidèles, soyons fidèles et prudents dans ce que le Seigneur nous donne d'administrer. N'est-ce pas que si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous le serons aussi dans les grandes? Dieu veut nous associer à son œuvre. Suivons donc les consignes de notre Maître, notre Seigneur. Comme le Seigneur, nous serons parfois et même régulièrement incompris à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'Évangile, ce qui pourrait occasionner des divisions, des séparations avec des personnes qui nous coûtent cher, des membres de nos familles même, des amis. Ils ne comprendront pas notre décision de marcher avec Dieu et surtout notre décision de lui obéir. Parce que souvent, quand on va demander à toute personne, tout le monde est chrétien. Oui, tout le monde est chrétien. Mais la différence, c'est que le chrétien, il obéit à son maître. Amen. Donc, ne soyons pas surpris. Soyons prêts. Comme nous avons du discernement pour les choses terrestres, ayons aussi du discernement pour les choses spirituelles. Affectionnons-les. Revenons à nos premiers amours. Certainement que nous avons refroidi. Certainement que nous sommes découragés. Certainement qu'on dit même qu'on n'a même pas le temps. Ah ouais, ici on n'a vraiment pas le temps. Certainement qu'on dira qu'on n'a pas le temps parce qu'on est, on est tellement pris par nos différentes activités. À telle enseigne qu'on a relégué au second plan même l'œuvre de Dieu. On a relégué au second plan notre amour pour le Seigneur. Mais ce matin, le Seigneur nous demande de revenir à nos premiers amours. Si tu es là ce matin et que tu n'as pas fait cette réconciliation aussi avec Dieu, ce message s'adresse aussi à toi. Autant Jésus s'adressa à ses disciples et aux apôtres, il s'adressait aussi à la foule, à des personnes qui venaient juste pour l'écouter, à des sympathisants, à des personnes qui voulaient voir parce qu'ils avaient entendu parler de lui. Mais Jésus adressait son message à toute la foule. Et ce matin, si tu es là, et que tu sais que tu n'as pas fait la rencontre, la réconciliation avec Dieu, ce message aussi s'adresse à toi. Dieu t'aime et désire que tu sois sauvé. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort à la croix. Oui, c'est pour moi, mais c'est pour toi aussi. Oui, pour moi, pécheur, mais pour toi aussi. N'hésite pas à faire la paix avec lui. La Bible dit qu'il se tient à la porte de ton cœur et il est en train de frapper. Donc, si tu entends sa voix, ouvre afin qu'il rentre, parce qu'il veut souper avec toi. Il veut souper avec toi parce qu'il t'aime. Donc, si tu n'as pas fait la paix avec lui, l'occasion t'est donnée de le rencontrer. Et tu verras qu'il prendra soin de toi. Que le Seigneur bénisse sa parole et restons vigilants et prêts, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que notre Dieu revient. Que son nom soit béni. Amen.